Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'amour, j'entends la passion amoureuse, ne rime pas avec Dieu dans l'esprit de bien des Français. On pourrait même dire qu'ils ne font pas toujours bon ménage dans l'esprit des croyants eux-mêmes, pris que nous sommes dans une certaine idée de la morale ou dans une vision encore teintée de lointains relents de jansénisme. Alors, comme pour nous en vacciner, l'émission de ce matin avec un beau livre sur sept grandes histoires d'amour, très grandes histoires d'amour. Sept récits de passion de Dieu, passion de l'autre, de son corps, de son cœur, de sa vie et plus encore. Couple de feu et de foi, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce lundi, avec vous, Raphaël Simon. Vous êtes journaliste et auteur de ce livre du même nom que le titre de l'émission, ou plutôt l'inverse. Couple de feu et de foi, cette histoire d'amour, cet itinéraire spirituel paru aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir accepté d'être au micro avec nous. Alors je le dis, vous êtes donc en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame à Toulouse. Radio Notre-Dame pardon à Paris. Merci à eux. Vous êtes journaliste parisienne, journaliste indépendante. Vous êtes habituée à collaborer à un certain nombre de titres de presse. Vous n'en êtes pas à votre premier livre et donc vous avez commis cet ouvrage qu'on va parcourir en partie au long de cette émission. Allez, on va peut-être commencer par la petite histoire. Quand on est journaliste, racontez-nous, comment nous viennent les idées de livres? Est-ce que c'est des commandes? Est-ce que là, c'était le cas? Qu'est-ce qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de faire ce livre, Raphaël Simon?
Alors, quand on est journaliste, on essaye de voir tout ce qui frétille, tout ce qui vibre dans la société. Et j'allais dire, le déclencheur, ça a été la parution simultanée de la correspondance de Amélie et Frédéric Ozanam, donc ce couple des Ozanam, et une biographie du couple Baudouin et Fabiola de Belgique. La parution simultanée de ces deux ouvrages m'a fait tilt et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ces couples sont d'une certaine manière mis à l'honneur et j'ai voulu creuser le sujet et donc j'ai commencé par écrire un article pour le magazine Pèlerin pour lequel je travaillais à ce moment-là qui s'intitulait déjà « Couple de feu et de foi » où j'ai voulu rendre compte de manière très succincte de la vie de ces couples assez extraordinaires, en tout cas de leur amour extraordinaire dans une vie plus ou moins ordinaire suivant évidemment les parcours. Et puis, les éditions de l'Emmanuel ont vu que j'étais un peu frustrée d'avoir commis simplement 4 pages, hein, c'est court toujours un article, et donc ils m'ont proposé d'approfondir le sujet et d'en faire un livre. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis très très heureuse d'avoir pu approfondir effectivement ces itinéraires.
Alors de fait, vous n'avez pas fait les choses à moitié, il y a une bibliographie d'ailleurs très conséquente à la fin, et quand on vous lit, on a l'impression que voilà, vous connaissez bien leur vie, vous l'avez bien pénétré. Il y a quelques bonnes fées qui semblent être un petit peu autour du berceau de ce livre. Alors, il y a une préface de Sophie Lutz, je vous laisserai la présenter, qui chronique dans un certain nombre de journaux chrétiens ou autres. Vous faites un remerciement à Xavier Lacroix, pour ceux qui connaissent, qui est un éminent, si je ne me trompe pas, théologien et homme d'éthique. Ces bonnes fées, c'est quoi? Elles sont venues à la fin ou est-ce qu'elles vous ont accompagné au long de l'écriture de ce livre?
En fait, donc Sophie Lutz, la préfacière, est bien connue de certains lecteurs, notamment, je pense, aux lecteurs de Famille Chrétienne, aux lecteurs aussi d'Ombre et Lumière, la revue qui s'adresse aux familles de personnes handicapées. En fait, Sophie Lutz est mariée, mère de 4 enfants, et elle est auteure, conférencière, et elle est très engagée, notamment aussi avec son mari, auprès des couples. Et elle s'intéresse énormément à, j'allais dire, la prophétie du mariage, et notamment du mariage chrétien. Et donc, je trouvais que je lui ai demandé si elle accepterait de faire cette préface et visiblement elle aime explorer ces thèmes et elle a accepté d'ailleurs elle a fait une très belle préface. J'invite les lecteurs vraiment à la découvrir. Et puis Xavier Lacroix, je le connais moins de fait, il a travaillé beaucoup également sur le couple, un peu philosophe, un peu théologien, vous l'avez dit, un peu éthicien. Et de fait, je voulais aussi lui rendre hommage. Notamment, il a écrit sur les époux Ozanam. Il a été très fasciné par la figure de Frédéric Ozanam en tant qu'époux et en tant que père. Et il a écrit des très belles choses. Et donc voilà, j'ai voulu aussi, en lui dédicaçant ce livre, lui rendre hommage.
Alors on va s'arrêter un petit peu avant de se plonger dans la vie de deux d'entre eux, de ces sept couples qu'on a choisis. On va s'arrêter un petit peu sur le propos du livre, parce que déjà en préambule, il y a bien des choses à dire. Sophie Lutz, au début de sa préface, dit « L'union de l'homme et de la femme est à l'image quelque part d'un secret radioactif et laisse entendre que tous ces couples dont vous parlez sont des grands amoureux ». Ça peut parfois surprendre, on se dit que, alors il faut le dire, hein, il y a un certain nombre de couples qui sont soit sains, soit bien heureux, ou probablement qui en prendront un jour le chemin. C'est un peu votre constat aussi au long de ces années comme journaliste dans les médias chrétiens, passion amoureuse et on va dire couple bien heureux ou sain porté sur les autels un jour, dans l'esprit des gens, ça bug.
Alors, c'est vrai que quand on pense chrétien, on peut penser piété, avec le côté un peu pieusard, un peu ringard, etc. Et quand on pense amoureux, on pense plutôt à des couples un peu mythiques, assez glamour, etc. Et donc, les deux ne vont pas très bien ensemble, a priori. En fait, on se rend compte que dans le mariage chrétien, cette foi et cette passion amoureuse sont non seulement compatibles, mais se nourrissent l'une de l'autre, l'une l'autre. Et il n'y a pas de concurrence entre aimer Dieu ou aimer son conjoint. Il peut y avoir chez certains couples une forme de cloisonnement. Hein. J'ai ma vie avec Dieu, ma prière, etc. Et puis ma vie affective et sexuelle, ma vie de couple. Mais on se rend compte, en tout cas, le constat que j'ai fait à travers le récit de ces itinéraires, c'est que il y a une unité de vie qui est profonde chez ces couples. Et je peux dire que l'amour de Dieu, l'amour du conjoint et même l'amour du prochain sont un seul et même amour, un amour qui englobe tout. Pour prendre juste un petit exemple, Ozanam, qui vit au milieu du 19e siècle, il est très influencé par les romantiques. Et donc au début, il est un peu, en plus, il aime pas trop les femmes, il n'est pas très attiré par le mariage, etc. Puis il rencontre Amélie et il va l'aimer au début d'un amour un peu justement romantique, en idéalisant un peu la femme, etc. Et puis il va passer d'une passion un petit peu égoïste à un amour vraiment d'alliance. Il comprend que l'amour, bien sûr, il lui manifeste énormément de tendresse, etc., ça toujours, toute sa vie, mais il va passer à un amour de volonté ou un amour, comment dire, qui prend en compte l'autre et qui s'offre à l'autre et qui va parfois jusque se sacrifier pour l'autre.
Alors, de fait, il y a vraiment des passages bouleversants. Hein. Pourtant, moi, je connaissais la vie de certains, mais des choses, on va dire, l'amour, j'allais dire, cru, vrai et qui bouleversent. Ces couples, de fait, ils ont parfois même des visages ou des allures de stars. Hein. Je pense entre autres à Enrico et Chiara Petrillo. Vous n'aurez pas le temps d'en parler, mais un couple italien. Il y a une très belle photo. On les voit main dans la main. Ça pourrait presque faire la une de gala. Elle est une ravissante femme. Il y a d'autres choses, toujours dans cette introduction, cette préface de Sophie Lutz. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on lit entre les lignes, il est dangereux de mettre des personnes sur un piédestal. Dans l'Église, on le sait, avec les nombreux scandales qui ont entouré les figures, on va dire, charismatiques d'une époque récente de l'Église, où les unes derrière les autres, ces figures tombent. Sur ce chemin, vous avanciez comment ? Inquiète ?
Non, elle a eu tout à fait raison d'en parler, de dire que attention, vous parlez de l'Église, mais c'est vrai aussi des journalistes. Nous sommes un peu complices. Nous cherchons des stars. Nous savons que c'est les stars qui vont attirer, qui vont intéresser. Et donc il y a un phénomène de starisation un peu dans l'Église, dans les médias, etc. Donc il faut faire très attention quand on parle de personnes, montrer leur bon côté, ça c'est sûr, et ce qu'ils font de bien, mais pas les canoniser de leur vivant, en tout cas. Donc, pour ce qui est du livre, j'ai essayé vraiment... D'abord, je n'ai pris que des gens qui étaient déjà morts, à l'exception du dernier couple où Enrico est toujours de ce monde, mais je voulais vraiment un couple contemporain, puisque ces récits, en fait, couvrent une période de deux siècles. Hein, voilà. Mais pour revenir à la question de mettre quelqu'un sur un piédestal, moi, ce que j'ai essayé de faire aussi, en m'attachant à ces figures, c'est... de chercher des détails, de chercher des faits et essayer au maximum de d'étayer mes propos et de ne pas... Vous voyez, j'avais d'autres couples en tête et finalement, quand j'ai cherché, quand je suis allée aux sources, etc., je ne trouvais pas forcément des faits ou des détails. Je trouvais, ah bah elle était sainte, ah bah elle se comportait comme une sainte. Moi, ça ne me suffisait pas. Il fallait que j'ai des petits faits, il y a de la correspondance, il y a tous ces éléments qui viennent un peu étayer le fait que ce sont des gens qui ont vécu de manière assez admirable. Après, libre à chacun de penser ce qu'ils veulent. Et encore une fois, je n'ai pas non plus la vérité sur absolument toute leur vie, évidemment. Je me suis attachée à des sources qui étaient connues. Voilà, cela étant dit, je pense qu'à chacun de garder son esprit critique.
Donc, ni sur un piédestal, et puis ni une hagiographie, on va dire, qui sent bon la naphtaline. Alors, si...
Cela étant dit, pardon, je vous coupe, mais l'Église a quand même canonisé ou béatifié certaines de ces personnes, et l'Église est maîtresse, enfin, elle est maître de ce qu'elle fait.
Oui, mais c'est pas pour autant que c'est toujours facile d'écrire une biographie qui a de la chair et où on peut entrevoir aussi, on va dire, les limites ou l'humanité des personnages. Alors, on va pas détailler les 7 portraits. Je vais vous demander de piocher. Alors, vous me direz forcément, vous avez eu un coup de cœur pour les 7, sinon vous auriez pas passé autant de temps à essayer de les connaître. Mais c'est l'exercice que je vous propose au début de cette émission, d'en choisir peut-être quelques-uns qui font écho à ce que vous dites, vous, en introduction, ou Sophie Lutz, et entre autres à ce point, c'est des couples, semble-t-il, enfin, on peut se dire qu'en matière d'amour, on peut bien tomber ou pas, et que c'est aussi une affaire de chance. Est-ce que, je ne sais pas, si vous picorez, vous avez l'impression que certains n'étaient pas forcément bien tombés, et pourtant ça s'est transformé en une grande histoire d'amour.
Disons qu'ils n'étaient pas forcément comme les Ozanam, très, très attirés par le mariage. Ni Amélie, ni Frédéric ne sont attirés par le mariage, mais ils se rencontrent. Et là, ça change tout. Et ce que je dirais, c'est qu'il ne s'agit pas de bien ou mal tomber. En fait, ils se reçoivent l'un et l'autre comme don de Dieu. Et ça, c'est ce qui traverse tous les récits de ces couples. C'est que l'autre, il n'avait pas forcément imaginé de rencontrer telle ou telle personne, mais il est reçu. Et il est reçu comme un don de Dieu. Et ça, c'est le point de départ, mais ça va durer toute la vie, en fait. Ils vont toujours considérer l'autre comme un don que Dieu leur fait. Et ça, je pense que c'est très beau et c'est aussi une des clés pour comprendre pourquoi foi et passion peuvent être compatibles. C'est que voilà, quand on reçoit un cadeau de Dieu, eh bien, on en prend soin. Alors ça, on prend soin de l'autre.
Donc c'est une découverte que certains font, on va dire, au fur et à mesure. Par exemple, Chiara et Enrico Petrio. On peut lire qu'ils ont un... Alors je vais vous laisser les présenter très très brièvement, hein, mais on peut dire donc que c'est un couple qui au début a galéré, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça,
dans
ses fiançailles et qui a fini par se recevoir comme tel, non ? C'est...
Tout à fait. En fait, Enrico était pas engagé, mais enfin, je crois qu'il avait plus ou moins une petite amie avant.
Enrico qui est toujours vivant, vous le disiez tout à l'heure.
Qui est toujours vivant, oui, tout à fait. Et donc, quand ils se rencontrent, c'est un peu c'est le coup de foudre. Mais leur tempérament et puis un certain nombre d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui, la peur de l'engagement notamment, la peur de se montrer tel qu'on est aussi, la peur de lâcher l'autre, de pas mettre la main sur l'autre, tout ça vont faire que ça va bloquer un peu leur temps de fiançailles. Ils vont être fiancés plus de 6 ans. Et donc des très longues fiançailles avec des disputes, avec des ruptures, des réconciliations. Voilà. Après, quand on connaît le reste de leur vie, on comprend qu'il y avait un très gros enjeu avec ce mariage. Et une fois qu'ils s'engagent, une fois qu'ils se disent oui, nous allons nous marier et qu'ils s'engagent dans le mariage, leur relation s'apaise. C'est vraiment très beau parce qu'il y a vraiment, je pense, eu un combat spirituel très important pour l'un et pour l'autre pendant leur fiançailles. Et c'est assez fréquent, de fait, que les fiançailles, c'est une forme de mise à l'épreuve, finalement, puisqu'après, c'est un engagement qu'on prend à vie. Et c'est vrai qu'ils se sont reçus l'un l'autre, mais ils ont mis du temps, effectivement, à s'apprivoiser, à se connaître et à s'accepter différents et à faire route ensemble.
Alors, ces couples, je vais les citer. Donc, Amélie et Frédéric Ozanam, ça vous en avez parlé. Frédéric Ozanam, qui est quand même assez connu. Elisabeth et Félix Lesseur, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Ce couple qui a comme particularité d'avoir été longtemps, j'allais dire, un couple mixte, d'une certaine manière, puisque Félix Lesseur était agnostique, voire athée.
Athée, oui.
Il y a Zita et Charles de Habsbourg, pour les plus connus. Fabiola et Baudouin de Belgique. Elle étant décédée en 2014, c'est aussi un couple assez récent. On s'arrêtera sur Gianna et Pietro Molla, et puis cet autre couple d'Italiens dont lui est toujours vivant et elle avait un physique de star, Chiara Corbella. C'est Chiara et Enrico Petrio. Peut-être aller un petit mot, Maria et Luigi Beltram Quattrocchi, peut-être connu quand on est du Sérail et moins par d'autres. C'est, je crois, le premier couple de bienheureux de l'histoire, non?
C'est ça. C'est Jean-Paul II qui les a béatifiés ensemble pour la première fois dans l'histoire. Donc un couple d'Italiens. Ils sont à peu près du même milieu. Ils ont une espèce de connivence d'entrée de jeu très importante, une tendresse. Ils vont avoir une vie de tous ces couples. C'est ceux qui ont la vie entre guillemets la plus ordinaire. Lui est avocat d'État. Il plaide pour au profit des entreprises publiques et de l'État. Et Maria est une femme au foyer. Elle va avoir une grande importance. Enfin, elle va beaucoup écrire. Elle va écrire des livres et elle va s'intéresser beaucoup à l'éducation des enfants et la place de la mère en particulier. Et donc, elle sera reconnue quand même à ce titre comme auteure et comme pédagogue, on va dire. Ils ont 4 enfants. Elle va, lors d'une naissance, a failli mourir vraiment. Ça a été une épreuve très importante pour eux. De fait, dans l'histoire de ces couples, souvent la femme est blessée. Enfin, il y a quelque chose qui se passe autour de sa maternité. Vous voyez, comme une épreuve là très importante.
En tout cas,
chez les
46 ans mariage, donc proclamé bienheureux donc le même jour, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, et une vie à la fois très ordinaire et en même temps un amour extraordinaire, très nourri. Ils allaient à la messe ensemble le matin, lui revenait déjeuner, leur conversation, on avait l'impression que c'était une conversation toujours continue, toujours pleine de fantaisie et d'intérêt, et jusqu'à la fin de leur vie.
Alors il y a une chose, je le sais par exemple à propos des époux Quattrocchi, c'est que tous ces couples, et ça vous le redites je crois en introduction, tous ces couples, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils se manquent dès qu'ils se quittent. J'avais souvenir que Maria Corsini, quand son époux décède, elle est au début inconsolable. Enfin, c'est une grande douleur. Ça aussi, c'est loin de l'idée qu'on peut se faire des couples sains qui encaisseraient, on va dire, la mort du conjoint de manière stoïque. Je crois qu'elle disait qu'elle avait le sentiment d'être comme coupée en deux. C'est des couples qui s'aiment, qui se manquent et qui connaissent la douleur de l'absence aussi.
Complètement. Et alors d'abord, ce sont des couples qui passent par des épreuves très très importantes. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de douleur ou de mal ou de souffrance. Effectivement, ce sont des couples qui donc passent par des épreuves très importantes. Et c'est vrai qu'ils sont inséparables. Ça, c'est un peu une caractéristique aussi. Et la séparation est vraiment très mal vécue, y compris la séparation géographique pour quelques jours ou quelques semaines. Ça, c'est vraiment une caractéristique commune de tous ces couples. C'est-à-dire que je pense que, comme dit très bien la reine Fabiola, à un moment, elle dit j'ai toujours aimé contempler, on aime contempler celui qu'on aime. Donc on aime être à côté de celui qu'on aime. On aime, et je pense que la séparation était toujours vécue comme très douloureuse, a fortiori, évidemment, lorsque l'un ou l'autre décède. Je pense évidemment à l'impératrice Zita qui a perdu son mari après 10 ans de mariage et qui va rester veuve pendant 67 ans. Donc ce sont des épreuves très, très douloureuses et très douloureusement vécues. Et encore une fois, la foi est une aide, mais elle n'empêche pas l'immense souffrance de cet amour au plan humain.
Couple de feu et de foi, c'est donc le titre de votre livre paru aux éditions de l'Emmanuel. On fait une courte pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants, Raphaël Simon, pour parler du couple Le Sœur.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Couple de feu et de foi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, à partir d'un livre dont c'est le titre justement, avec ce sous-titre « Cette histoire d'amour, cet itinéraire spirituel », écrit par vous, Raphaël Simon. Vous êtes journaliste et auteur donc de cet ouvrage paru aux éditions de l'Emmanuel. On va se plonger dans une première histoire, Elisabeth et Félix le sœur. Alors je vais peut-être le dire en préambule. Et puis on en reparlera. Je l'ai choisi parce que c'est l'histoire d'amour entre une femme profondément croyante et un homme qui ne l'est pas, ou en tout cas au début, et que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Ce qui explique parfois l'intérêt aussi ou le succès de ce couple et de, comment dire, du journal intime que cette femme a écrit pendant sa vie et qui a été publié après sa mort. Alors commencez par nous présenter, allez, les deux amoureux avant qu'ils ne se rencontrent. Vous donnez la date de la rencontre, je crois. Qu'ils se rencontrent. Alors, je ne me souviens plus de la date. Vous allez peut-être nous aider. Présentez-nous les deux amoureux avant qu'on en vienne tout de suite au coup de foudre, Raphaël Simon.
Ouais, alors, ils se marient en 1889. Pardon. Donc, c'est un couple du 19e siècle. C'est un couple, j'allais dire, branché du tout Paris, de la belle époque.
Alors, avant qu'ils se marient, ouais, c'est ça.
Avant ça.
Qui était-elle et qui était-il ?
Alors, Elisabeth Arrigui est une jeune fille de bonne famille, on va dire. Lui aussi, de son côté. Leur famille est un peu du même ordre, même milieu. Ce sont des gens chrétiens, ouverts sur le monde, avec une certaine ouverture d'esprit. Voilà, donc Félix, lui, va se destiner à la médecine parce qu'il a dans l'idée d'aller dans les missions, dans les pays aux colonies. Et donc, il fait sa médecine. Elisabeth, elle, c'est une femme sans doute très intelligente qui fait des études. Pour l'époque, c'est pas donné à tout le monde pour quand on est une fille. Et elle est même frustrée de ne pas pouvoir faire du grec et du latin, mais elle sera très douée pour les langues. On y reviendra peut-être, elle apprendra le russe et le latin, et le russe notamment pour lire les russes à la mode dans le texte. Voilà.
Elle a une vie de foi aussi très, alors, très forte depuis sa jeunesse.
Voilà, une très grande vie de foi. Sa première communion a été un moment très important dans sa vie de petite fille, alors que du côté de Félix, en fait, il a un peu tout envoyé promener. La vie parisienne, les cabarets, le scientisme de l'époque, le matérialisme, etc., a eu raison de sa foi. Il a un peu tout envoyé promener et il deviendra même athée militant. Ils se rencontrent.
Alors,
ils se
rencontrent, voilà, ils se rencontrent et c'est un vrai coup de foudre. Elle a 20 ans, lui, oui. Donc, doit en avoir juste peut-être un tout petit peu plus. Et alors, 5 jours plus tard, ils se fiancent. Qu'est-ce que vous savez de cette soirée coup de foudre?
Alors, une soirée coup de foudre, en fait, ils se rencontrent lors d'une soirée par des amis communs. Et effectivement, visiblement, immédiatement, quelque chose se passe parce que dans la salle, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux. Ils se reconnaissent, je ne sais pas, comme amoureux déjà, tout de suite. Et ils passent beaucoup de temps à discuter. Et la sœur, même d'Elisabeth, dira « Oh, mais il n'arrête pas de parler de Wagner. » Elle est un peu... Elle ne comprend pas comment ils sont tellement accaparés l'un par l'autre, finalement. Et donc, effectivement, ils vont se fiancer très, très vite. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'on découvre ici, à notre siècle. C'est qu'à ce moment-là...
Oui, ça paraît vertigineux. 5 jours après, hein, c'est...
On n'y va
c'est
pas par quatre chemins.
Aujourd'hui.
On est amoureux, c'est pour la vie, c'est décidé. Et en quelques jours à peine, ou quelques semaines ou mois, ça y est, c'est embarqué. De fait, ils vont s'aimer d'un amour très tendre, très... avec beaucoup de soins à l'autre, beaucoup d'attention, beaucoup de... Félix est complètement charmé par cette femme qui est intelligente, qui a de la conversation, qui a de l'esprit, qui a de l'humour. Et elle aussi, elle le trouve chaleureux. C'est vrai que c'est un homme très, très cultivé, très chaleureux. Et donc, ils forment un couple, finalement, un très beau couple, très attachant.
Ils disent cela, je crois que c'est elle qui écrit ça, oui c'est ça, à un oncle, à propos de son voyage de noces. Nous avons été tout le temps d'une gaieté ou plutôt d'une folie inimaginable. Et s'il n'y avait jamais eu sur Terre deux êtres heureux, je crois bien que c'est nous. Il y a une chose qui parle aussi, je trouve, de la délicatesse, du respect qu'il y a dans leur histoire. C'est ce qui leur arrive au début et ce sont les choix radicaux que fait Félix pour avoir un mode de vie, j'allais dire, adapté à celui de la santé de sa femme. Racontez-nous ce qui leur arrive très rapidement.
Oui, parce que le voyage de noces, c'est toujours très, très idyllique. Enfin, pas toujours, mais voilà. Sauf qu'elle revient avec une péritonite aiguë qui n'est pas opérable. Et donc, elle va arriver dans leur premier appartement parisien sur un brancard ou pas loin. Et elle ne pourra pas avoir d'enfant à cause de cette maladie. De fait, plus tard, on y reviendra, mais elle va avoir une maladie grave du foie. Et donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que dès le début, vous voyez, ils ont beau être très amoureux, ils ont beau former un couple extraordinaire, la maladie vient tout de suite briser un peu le rêve d'avoir des enfants, le rêve de la santé, tout simplement.
Et ses rêves professionnels à lui aussi, alors c'est...
Et ses rêves professionnels à lui, comme vous dites, parce que la famille d'Elisabeth fait comprendre à Félix qu'il n'est pas question qu'il parte aux colonies. Et donc, il va renoncer à la médecine, tout simplement. Et il va trouver une place comme journaliste dans différents journaux très anticléricaux de l'époque. Et parce qu'il est très cultivé, donc il écrit beaucoup justement sur la colonie, etc. Bon. Et puis, on lui propose un poste carrément en Afrique. Et là, il comprend qu'il ne pourra jamais y aller. Et donc, la famille lui propose un poste de directeur à la suite d'un départ dans une grande compagnie d'assurance. Et donc, il accepte ce poste pour, comme vous dites, s'adapter à la vie de sa femme qui aura une santé fragile toute sa vie. Et bon, ils voyageront après, mais en tout cas, il aura renoncé à sa carrière professionnelle pour elle.
Alors, de ce Félix, avant d'être à la tête de cette compagnie d'assurance, il travaille donc à la République française et puis après donc au Siècle, qui était un grand journal à l'époque, journal influent de gauche, vous dites sans doute encore plus anticlérical donc que la République française, c'était donc un des grands titres de l'époque. Et il court donc et il vit dans le tout Paris, entraînant son épouse. Il avait même un surnom, Félix le Magnifique, disaient ses amis. Racontez-nous la vie de ce couple. D'ailleurs, vous commencez par une anecdote qui est assez frappante. Vous dites qu'elle avait été choisie pour dire quelques mots à l'impératrice à l'occasion de l'inauguration du pont Alexandre III, qui est donc ce pont à Paris, signe de l'amitié entre la France et la Russie à la fin du XIXe siècle.
Oui, parce que comme je vous le disais, elle avait appris le russe, donc elle en savait suffisamment pour pouvoir tenir une conversation. Et je pense que c'est par l'entremise de Félix qu'elle aurait pu, puisque lui côtoyait donc les milieux un peu du pouvoir, elle aurait pu avoir ce dialogue avec le tsar Nicolas II à l'occasion de l'inauguration du pont Alexandre III. C'est ça, par le tsar Nicolas II. Bon, ça s'est pas fait, donc elle raconte à sa mère que ça leur est amusé. Vous voyez, donc elle a peur de rien aussi, la fameuse Elisabeth. Donc en fait, Félix, effectivement, Félix le Magnifique, parce que il est un peu dandy, en fait. Il est toujours très bien habillé, il se fait faire ses costumes par le meilleur tailleur de Paris. Et elle fait très attention aussi à sa toilette, parce qu'elle sait que pour son mari, c'est très important. Et toute sa vie, elle fera très attention à ça, vous voyez. Donc c'est vraiment l'attention à l'autre. Et d'ailleurs, il lui rendra hommage à la fin de sa vie, Félix, en disant « Tout ce que j'aimais, eh bien, Elisabeth essayait de se mettre au diapason pour aimer aussi, pour partager avec moi ce que j'aimais. » Vous voyez, c'est ça aussi, aimer l'autre jusqu'à... voilà, elle voulait faire honneur à son mari. Et donc, ils le reçoivent beaucoup, ils ont une vie mondaine, c'est l'époque de l'exposition universelle, etc. Donc, ils profitent de la vie mondaine, des soirées, mariée, etc. Et au point, pour Elisabeth, de s'étourdir, j'allais dire, et de laisser de côté finalement sa vie de foi, puisque quand on n'a pas le cadre propice pour vivre sa foi, ben, c'est beaucoup plus difficile. Et Félix, je dois dire,
n'a pas aidé.
Tout. Non,
il n'a pas aidé. Vous dites qu'il s'est engagé quand même au début de son mariage à respecter sa croyance et sa pratique, mais après, on va dire qu'il développe une autre attitude. Il y a entre autres un passage important. Vous dites qu'il lui met donc un livre de Ernest Renan entre les mains, qui s'appelle La vie de Jésus, qui était probablement donc une biographie, mais qui ne devait pas être une biographie, on va dire, très, très spirituelle. Il a essayé de la détourner de la foi chrétienne. Il l'appelait même la Madame Péchin, du nom d'un personnage du roman d'Anatole France, moqué pour sa foi, dites-vous. Comment il s'y est pris ? Était-il vraiment, on va dire, odieux parfois même, ou...
Je pense qu'il n'a pas été agréable avec elle et il se moquait d'elle même publiquement. Je pense que ça, c'est très dur pour Elisabeth. D'ailleurs, elle le dit. Et elle, intérieurement, elle en souffre, mais elle ne le montre pas. Et déjà, alors, au début, donc, comme vous dites, donc, elle, quand elle perd plus ou moins la foi, bon ben voilà. Mais avec ce livre de Renan dans les mains, en fait, il va penser que ça va être le coup de grâce, qu'elle va vraiment, effectivement, perdre définitivement la foi avec ce livre. Et en fait, c'est tout le contraire qui se produit. Elle se dit, mais au fond, ce livre, c'est que des sophismes, c'est pas ça du tout. Et elle va vouloir réétudier à nouveau les évangiles, prier, reprendre une vie de prière, reprendre une vie de pratique religieuse, renouer avec ce Dieu qu'elle a aimé et qui a été la foi de son enfance finalement. Et donc, et à partir du moment où elle renoue avec sa foi, effectivement, Félix là va être un peu jaloux de sa foi d'une certaine manière. Et il va lui mettre un peu des bâtons dans les roues, autant que possible.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, lui mettre des bâtons dans les roues ? C'est-à-dire,
C'est ça, il va se moquer d'elle devant les autres. Alors, il ne va pas l'empêcher de prier, c'est pas ça. Mais voilà, vis-à-vis des autres, vous voyez, c'est quand même pas très agréable d'être moqué par son propre mari dans les dîners. Ou alors, il va favoriser justement des conversations avec des athées militants comme lui pour montrer qu'elle a tort. Il va lui faire recevoir les gens spécialement le vendredi parce qu'il sait que c'est le jour du jeûne et que comme ça ils feront bien gras le jour où elle voulait jeûner. Enfin, vous voyez, donc il y a quand même des attitudes un peu mesquines de sa part. Moi je pense, mais on peut penser autre chose, mais moi je pense qu'il était un peu jaloux en fait de ce jardin secret et je pense qu'il y avait... voilà, elle n'était pas toute à lui dans ces cas-là.
Un autre amour aussi, qui lui échappait, voilà, ouais, c'est ça.
Qui lui échappait. Mais bon, l'histoire se terminera bien, on va y venir. Mais en tout cas, voilà.
On va y venir justement. Alors, vous citez souvent sa correspondance à elle, qui sera donc publiée après sa mort. Vous dites aussi que cette correspondance a connu un succès fulgurant. Je crois que c'est 100 000, c'est ça, exemplaires qui ont été vendus. Alors, j'en cite juste un passage qui dit... La profondeur et la délicatesse de cette femme, devoir envers mon cher mari d'abord, tendresse qui n'a même pas le mérite d'un devoir, souci constant de lui être utile et agréable. Et vous rajoutez, elle poursuit tout en délicatesse, surtout observer une extrême réserve sur tout ce qui touche aux choses de la foi. Alors cette femme va tomber malade, elle va décéder, je vois le temps qui passe, donc j'avance peut-être à grands pas, et la vie de cet homme va basculer avec, à la fin de sa vie, comme des paroles de prophétie à l'égard de son mari. Racontez-nous.
Oui, alors elle offre toutes ses souffrances et toutes ses prières, elle les offre pour la conversion de son mari. Et elle pense qu'une si belle âme, qu'un homme aussi bon et aussi chaleureux, aussi bon que Félix... ne peut pas échapper à l'amour de Dieu. Et donc, elle va... C'est vraiment cette croyance, je trouve que c'est très, très beau, très fort. Mais elle va y mettre toutes ses forces. Elle va demander à une sœur, une religieuse avec qui elle va avoir une profonde amitié spirituelle de prier à cette intention. Elle va vraiment tout mettre en œuvre pour que, dans son cœur, Félix se convertisse. Elle ne verra pas la conversion de Félix de son vivant. C'est ça qui est admirable, mais Félix va se convertir après sa mort.
Alors Félix va se convertir après sa mort et on gère non des moindres, il n'y a pas de petite et de grande conversion, mais donc il va devenir religieux, prêtre aussi, hein ?
Alors oui, elle lui avait dit « tu seras prêtre, tu seras le père Lezer ». Lui, évidemment, je pense qu'il se disait « mais elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Et en fait, au bout d'un moment, donc en lisant le journal d'Elisabeth...
Alors c'est ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est qu'il il se plonge dans le journal de sa femme.
Dans le journal d'Elisabeth, et là, il comprend que l'amour qu'elle lui porte vient de Dieu. Et il comprend que cet amour, c'est le même amour. Et il comprend que Dieu l'aime comme il a aimé Elisabeth. Et elle le porte, en fait, à la conversion. Donc, non seulement il se convertit, alors il passe par des étapes, hein, on brûle un peu les étapes, mais il passe par des étapes jusqu'à il se sent appelé à devenir dominicain. Bon, évidemment, les dominicains lui disent « Non, mais vous n'y pensez pas, à votre âge, avec la vie que vous avez menée. » C'était un homme qui vivait dans le luxe, et en fait, l'appel est plus fort, Félix Lezer va devenir dominicain et va devenir le père Lezer, comme l'avait prédit Elisabeth.
Et puis travailler aussi donc à la connaissance de la spiritualité de sa femme et entre autres du succès phénoménal de ce journal.
Du journal et de la spiritualité conjugale. En fait, je pense qu'il va faire un travail énorme à travers des conférences, à travers la publication des ouvrages d'Elisabeth sur ce que c'est qu'être laïque dans le monde, ce que c'est qu'un couple qui s'aime, et un couple chrétien. Voilà. Et il voudra toute sa vie, évidemment, réparer le tort qu'il a fait à sa femme concernant sa foi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il l'aimera... Même, vous voyez, quand il est dominicain, il continue en secret à célébrer son anniversaire de mariage. Voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment une unité.
Qu'est-ce que vous retenez de ce couple, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Quelle nourriture particulière que celle de ce couple d'Elisabeth et Félix Lezer?
Peut-être l'immense respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Vous voyez, Elisabeth, ça lui coûte énormément de ne pas partager sa foi avec son mari, alors qu'elle partage tout le reste et qu'ils s'aiment vraiment d'un amour très fort. Très beau, mais la conscience, l'autre, c'est ne pas mettre la main sur l'autre. C'est vraiment l'autre est libre et c'est ce que diront aussi après les pétriers. Ils diront l'amour, c'est le contraire de la possession. Vous voyez, l'autre est donné, l'autre est reçu, mais l'autre ne nous appartient pas. Moi, je trouve ça très très beau, en tout cas chez les Lezer. Et donc ce respect, cette estime mutuelle. Et peut-être cette tendresse aussi dans les petites choses.
Allez, on vous retrouve, Raphaël Simon, pour continuer à parcourir cet ouvrage « Couple de feu et de foi » paru aux éditions de l'Emmanuel. On va parler d'un autre couple, ce sont des Italiens. Je cherche leur nom, vous allez peut-être
m'aider.
Gianna et Pietro Mola. Quelle histoire magnifique aussi.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Couple de feu et de foi, c'est pour rappel le titre du livre que l'on parcourt ce matin, paru aux éditions de l'Emmanuel, et donc le titre aussi de cette émission, avec pour le livre ce sous-titre « Cette histoire d'amour, cet itinéraire spirituel ». Avec vous, Raphaël Simon, vous êtes journaliste et auteur de cet ouvrage. On va donc maintenant parcourir la vie d'un autre couple, Gianna et Pietro Molla, qui ont vécu donc au 19e siècle, au début du 19e, et Pietro qui vit toujours.
Le 20e siècle,
est décédé lui, et donc en 2010. Voilà, si je lis le résumé, 6 ans de mariage, une histoire vraiment qui prend aux tripes, hein, qui est bouleversante. Si on commence pareil par le début, vous passez un peu de temps à parler d'elle d'abord. On sent que c'est une femme. Alors vous dites, Gianna a soif de grand air, elle a besoin d'action, de joie de vivre. J'allais dire, elle pète la vie. Et c'est une femme qui a un très fort tempérament ou caractère. Présentez-la nous un peu plus.
Oui, alors elle est la 10e de 13 enfants. Tous les enfants ne vont pas rester en vie. Mais c'est une famille nombreuse, très croyante, du nord de l'Italie, enfin de près de Milan. Et c'est un tempérament de feu, ça c'est vrai, vous l'avez bien dit. Elle croque la vie à pleines dents, elle fait de l'alpinisme, elle aime le théâtre, elle aime aller à l'opéra. Enfin voilà, c'est une femme très très vivante. Et elle se destine à la médecine pour pouvoir soigner notamment les pauvres. Elle a dans l'idée de partir comme missionnaire. Deux de ses frères seront prêtres, dont un qui est missionnaire au Brésil. Et donc, et elle a une sœur aussi qui est religieuse en Inde, missionnaire en Inde. Donc, vous voyez, elle est attirée vraiment par les missions. Et elle est aussi très... elle a une foi très, très vive. Et elle est très investie dans l'action catholique auprès de jeunes filles. Et on sent qu'elle cherche à se former et à former les autres. Vous voyez, il y a une grande, il y a une attitude vraiment de maturité dans la foi, j'allais dire, chez cette jeune femme qui cherche vraiment à bien faire, j'allais dire.
Alors, qui cherche à bien faire, et il y a une citation là comme ça qui m'a frappé. Alors, ça dit peut-être aussi la spiritualité d'une certaine époque, mais on sent le tempérament de la femme aussi. Elle dit à propos du sens du sacrifice qu'il faut avoir, ou en tout cas de la manière qu'on a de se donner dans certaines circonstances. Si cela ne coûte rien d'aimer, on n'aime pas vraiment, il faut que sur notre charité, il y ait une goutte chaude de notre sang. C'est fort quand même comme citation, hein.
Oui, c'est tout à fait typique de son tempérament, très très investi, très incarné aussi. Hein. Elle dit aux jeunes filles, bien parler seulement, on n'entraîne pas, il faut aussi montrer l'exemple. Hein. Donc il y a ce côté où je m'investis, pas seulement en parole, mais en acte, en acte et en vérité, comme dit Saint Jean. Hein. Donc aimer, c'est vraiment s'investir corps et âme.
Alors, ils se rencontrent, puisque donc elle ne sera pas missionnaire, mais on lui susurre à l'oreille de former une famille. Ils se rencontrent avec Pietro. J'aimerais que vous vous arrêtiez sur le jour de leur rencontre, parce que difficile de ne pas y voir justement la main de la Providence. Ils se rencontrent un 8 décembre. Et alors, on a l'impression à vous lire que là aussi, il y a une évidence, mais très différente, comme une grande paix.
Oui, parce qu'en fait, Gianna avait vraiment l'idée d'être missionnaire et elle va renoncer, elle va comprendre que la volonté de Dieu n'est peut-être pas là. Et ça va être un grand sacrifice pour elle, parce que ce n'était pas du tout son idée de se marier. Et elle rencontre Pietro, son directeur spirituel, etc., lui l'incite à fonder une famille. Il lui dit, mais on a besoin de gens mariés qui aient la tête sur les épaules, comme toi. On a besoin de gens comme ta famille. Ses parents étaient très, très admirables. Donc, donc elle va rencontrer Pietro Molla. C'est un ingénieur. Il a 10 ans de plus que lui. Ils se rencontrent... de façon assez providentielle aussi, effectivement.
À l'occasion de la première messe d'un prêtre
d'un
ami.
D'un prêtre, c'est ça. Et ils se trouvent, je ne sais pas si c'était à côté, mais enfin, ils se retrouvent tous les deux au repas qui suit. Et donc, elle l'avait déjà rencontré deux ou trois fois, mais sans vraiment faire attention à lui. Hein. Ils sont de la même région. Donc, en plus, c'est un petit village où tout le monde se connaît, donc plus ou moins. Donc, voilà. Lui connaissait la très bonne réputation de Gianna comme médecin et comme chrétienne. Et donc, ce premier rendez-vous fou, qui n'ont pas cherché, les met l'un en face de l'autre et ils comprennent que quelque chose se passe aussi. Donc très vite, Pietro va l'inviter à l'opéra, puisqu'elle aime beaucoup ça. Et là, petit à petit, ils sentent que quelque chose se passe et qu'effectivement, c'est vraiment d'amour dont ils peuvent parler entre eux, en tout cas un amour naissant.
Alors Pietro dit la chose suivante, je ressens une sereine tranquillité donnée par la certitude d'avoir fait une bonne rencontre hier, la Vierge Immaculée m'a béni, dit-il. Donc c'est un couple qui se reçoit. C'est une courte vie qui est vite marquée donc par des drames, mais au cœur de ces drames, une grande lumière, vous allez nous en parler. Avant de parler des drames, quelle est leur vie conjugale au début? C'est comme ce qu'on laissait entendre au début de l'émission, c'est la belle et grande passion amoureuse.
Oui, lui, il est directeur d'une grosse usine qui fait vivre un peu tous les alentours. Donc il travaille énormément. Lui, il a dû renoncer un peu à sa vie de célibataire, hein, parce que quand on se marie à 42 ans, on a un peu son indépendance, on a un peu ses idées, on a un peu lui, il était un peu bourreau de travail. Et quand Gianna lui dit, mais attends, c'est pas juste que tu passes tout ton temps au travail et c'est pas juste pour moi, il faut aussi que tu m'accompagnes, que tu prennent du temps avec moi pour des loisirs, etc. Ben lui, au début, bon. Et il accepte, il entend, il accepte. Et il se rend compte qu'en fait, c'est non seulement bon pour Gianna, mais c'est bon pour lui aussi. Et donc, il passe là aussi de la vie de célibataire à une vraie vie de couple. Et donc, ils vont vivre presque sur le lieu de l'usine, dans une maison de fonction. Et très vite, Gianna, qui voulait absolument avoir des enfants, va avoir très vite trois enfants coup sur coup, si je puis dire, qui va les rendre extrêmement heureux. Gianna, je pense, avait un peu mésestimé ce que c'était qu'être mère, et elle se rend compte que c'est pas facile, que ça demande une grande abnégation, qu'elle voudrait que ses enfants n'aient aucune douleur, aucune souffrance, mais elle se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Et elle le dit très simplement, alors qu'en fait, c'est vraiment une éducatrice. Elle fait très attention, elle essaye de reprendre ses enfants sans les blesser, pour qu'ils grandissent en maturité. Et elle fait part aussi à son mari, à Pietro, de toutes ses difficultés, notamment quand il doit partir pour affaires. Et c'est très beau de voir dans leur échange, parce qu'ils s'écrivent aussi énormément, la vie quotidienne, en fait, c'est ça. Et tout est partagé à l'autre, les joies, les peines. Et elle dit, d'ailleurs c'est très féminin, elle dit, ne serait-ce que de te l'avoir dit, bah, déjà ça va mieux.
Alors, ils ont trois enfants et puis ils désirent ardemment en avoir un quatrième. Elle décide même donc qu'elle arrêtera d'exercer sa profession, sa profession de médecin, donc à la naissance tant espérée du quatrième enfant, vous dites. Et puis là, la vie de ce couple bascule, sans tout déflorer peut-être de leur histoire. Vous me direz, de toute façon, on va dire les faits, et puis après, il faudra s'y plonger. La suite est difficile à lire. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en partager?
Eh bien, elle se rend compte qu'elle est atteinte d'un fibrome qu'il faut opérer. Et si on opère, eh bien, il faut choisir, je raccourcis un peu, mais il faut choisir entre elle et l'enfant. Et donc, elle dit, il n'est pas question de porter la main sur l'enfant, sauver l'enfant, et puis moi, on verra après. C'est un choix évidemment extrêmement dramatique pour elle, pour son mari. D'autant plus que, comme toujours dans ces cas-là, il y a des pressions, y compris chez les proches, pour dire « mais ça va pas de laisser trois enfants très jeunes, orphelins, tu es complètement folle, etc. » Et elle souffre évidemment de ça, mais elle comprend que son rôle de mère, c'est de donner tout ce qu'elle peut à cet enfant qui est encore en elle et qui est appelé à vivre. Pour Pietro, évidemment, c'est extrêmement difficile et douloureux, mais il accepte. il consent à ce que, au sacrifice de sa femme, j'allais dire, non pas de la perdre, mais du risquer de la perdre. En tout cas, c'est elle qui fait le choix de sauver d'abord l'enfant.
Alors justement, je cite Pietro que vous citez vous-même, tu savais que la place de la mère pour élever, éduquer et former nos enfants n'avait pas son pareil. Mais dans ton humilité et surtout dans ta pleine confiance en la Providence, tu étais persuadé de ne pas commettre une injustice envers nos trois enfants. Parce qu'en cette circonstance douloureuse, celui qui avait le premier besoin de toi, qui dépendait entièrement de toi, c'était le fruit de ton sein. Alors, cette femme va décéder. Voilà, vous dites que c'est un amour conjugal fulgurant.
Quelques temps après la naissance, elle va quand même donner la naissance à une petite fille, hein, donc son quatrième enfant. Et effectivement, quelques jours plus tard, les médecins n'arriveront pas à la sauver. Et Gianna va mourir quelques jours après la naissance de sa fille. Mais elle a donné naissance à sa fille.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rayonnement qu'a eu la fin de sa vie et puis, on va dire, sa vie après? Vous dites que lors de l'enterrement, il y avait même une manifestation communiste qui était prévue ce jour-là, qui a été annulée et transformée en pèlerinage de reconnaissance pour cette femme. Pourquoi tant de rayonnement ?
Déjà, comme médecin, elle était connue, elle était très connue, comme chrétienne, comme femme. Je pense que elle était connue. Elle a eu là aussi une unité de vie, une cohérence de vie entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Et ça, je pense que c'est très très fort comme témoignage. Et puis témoignage de l'amour de Dieu, puisque entre deux, on sentait que c'était un amour, un couple qui s'aimait pleinement. Et ce qui est très beau, ce que dit Pietro de cet amour conjugal fulgurant, il dit « À peine comprenait-on que le conjoint avait quelques désirs qu'on cherchait à le satisfaire. » Et il dit « Pendant 6 ans de mariage, il n'y a jamais eu de désaccord sur des choses très importantes et sur tout ce qui était des petites choses, il y avait toujours des concessions réciproques, une estime réciproque qui engageait au respect. »
Raphaël Simon, on me fait signe que l'émission touche à son terme. Je finirai en disant donc que cette femme a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 24 avril 1994 en présence de Pietro et de ses trois enfants. Cette phrase de Pietro, absolument splendide, « Je m'incline devant les desseins inconnus de la providence divine ». Et je reste stupéfait quand je me rappelle l'exhortation à la sainteté que ton frère Don Giuseppe nous a adressée pendant la messe de notre mariage. Pour toi, cette exhortation a été prophétique. Maintenant, je m'agenouille devant toi et demande ton intercession. Voilà, c'est un très beau livre, Raphaël Simon. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Je rappelle son titre, « Couple de feu et de foi », paru aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci à vous.
Merci.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Merci aussi à Radio Notre-Dame, puisque vous étiez en duplex depuis Paris. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.